Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce premier bistrot des œnologues de l'année 2014. On est d'accord ? L'équipe du bistrot des œnologues est heureuse de vous accueillir ce soir à la laiterie et elle vous présente ses meilleurs vœux. Tout d'abord, quelques remerciements. Remerciements aux partenaires, la ville de Montpellier, la laiterie pour le cadre qu'elle nous offre. Et aussi la librairie du coin, qui se déplace jusqu'ici, au bout à gauche, là, pour proposer des ouvrages à petit prix. Nous accueillons ce soir Christian Bromberger. Quelques mots de présentation avant de lui céder la parole. Alors, Christian Bromberger a mené des études de lettres classiques, puis s'est spécialisé en ethnologie. Il enseigne cette discipline en qualité de professeur à l'université, classe exceptionnelle, à Aix-Marseille Université, où il a fondé et dirigé de 88 à 2006 l'Institut d'ethnologie méditerranéenne et comparative. Il a été professeur invité dans plusieurs universités étrangères et il est depuis 95 membre senior de l'Institut universitaire de France, qui est une chaire d'ethnologie générale. Il a présidé par ailleurs le Conseil du patrimoine ethnologique entre 1998 et 2001, et a été coprésident du Conseil scientifique du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Il a dirigé de février 2006 à septembre 2008 l'Institut français de recherche en Iran, à Téhéran. Ses travaux de recherche, très nombreux, plus de 230 publications, ses travaux portent sur les fondements, les modes d'expression et d'affirmation des identités collectives en Iran, en particulier dans la province du Gilan. On va y revenir tout à l'heure, et dans des régions méridionales de l'Europe, Provence, Languedoc, Piémont, Campanie, etc. Par ailleurs, il a mené une longue recherche sur les modalités et les significations de l'engouement populaire pour les clubs et les matchs de football dans plusieurs villes et métropoles, Marseille, Naples, Turin, Lens, etc. Enfin, plusieurs de ces textes ont contribué à affiner, à renouveler les méthodes, les concepts, les objets de l'ethnologie, notamment quand celle-ci s'applique au monde occidental contemporain. D'ailleurs, il interviendra à l'ouverture d'un colloque pluridisciplinaire et international intitulé « Chercheurs in situ, immersion par corps, normes et déviances » qui aura lieu au mois de mai 2014, 21, 22, 23 mai, pour être plus précis, à l'espace Saint-Charles de l'Université Paul Valéry. Quelques ouvrages pour terminer. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, l'engouement pour le football. L'ouvrage s'intitule « Le match de football, ethnologie d'une passion partisane à Marseille, Naples et Turin ». Autre ouvrage connu, ouvrage sur la gestion sociale et culturelle de la pilosité, intitulé « Tricologique, une anthropologie des cheveux et des poils ». Sur le thème du monde méditerranéen, un ouvrage qui s'intitule « Anthropologie de la Méditerranée ». Dans nos régions, sur la Provence, un ouvrage qui s'appelle « La Provence ». Et enfin, deux ouvrages sur la Provence du Gilan. Le premier qui s'intitule « L'Iran derrière le miroir », qui s'intéresse au thème de l'Iran d'aujourd'hui. Et celui qui nous intéresse ce soir, l'ouvrage qui s'intitule « Un autre Iran, un ethnologue au Gilan ». Je cède maintenant la parole à Christian.
Merci beaucoup. Bonsoir. Remercier le bistrot des ethnologues pour son hospitalité. C'est toujours un plaisir de venir exposer dans cette atmosphère conviviale le fruit de ses travaux et de les soumettre au feu des questions. Comme le disait Eric Pereira, mon dernier livre s'appelle « Un autre Iran » et il porte sur la province du Gilan, au nord donc de l'Iran. Et je voudrais d'emblée m'expliquer sur le titre de ce livre. Je vous montre une carte pour situer cette province du Gilan qui est dans le nord-ouest de l'Iran, qui longe la mer Caspienne. Et ce titre « Un autre Iran », un ethnologue au Gilan demande quelques commentaires. Pourquoi avoir intitulé ce livre ainsi. Ça n'est pas parce que j'ai percé des mystères ignorés jusqu'ici que d'autres n'auraient pas percé, que ça n'est pas parce que j'ai compris mieux que d'autres ce pays, l'Iran, mais c'est pour une série de raisons que je voudrais rapidement expliciter. À vrai dire, si l'Iran que je présente dans ce livre est autre, c'est surtout que la province dont il est question, le Gilan, présente par son climat, par sa végétation, mais surtout par les modes de vie de sa population et par son histoire singulière, une physionomie bien particulière. La population régionale du Gilan est la cible privilégiée des colibets, des blagues, des Iraniens du plateau, et c'est la rançon caricaturale de manière d'être et de faire très singulière dans cette frange du pays qui longe donc la mer Caspienne. Ceux qui ne connaissent pas l'Iran ont sans doute néanmoins eu une idée de cette province à travers des films très célèbres, puisque c'est un des paradoxes de la situation iranienne aujourd'hui que la qualité de son cinéma, et notamment à travers les films d'Abbas Kiarostami, qui a été Palme d'Or à Cannes en 1997. Ces films, ça n'est pas Le goût de la cerise qui a obtenu la Palme d'Or, mais c'est Où est la maison de mon ami, je ne sais pas si certains de vous l'ont vu, en 1987, et La vie continue en 1992, ou Au travers des oliviers en 1994. Mais les films de Kiarostami ont pour cadre les montagnes et les collines du Gilan, et on est encore loin des plaines vers lesquelles je vais vous diriger. Alors, s'il y avait un film qui campe davantage ce coin d'Iran, c'est à propos d'Eli, d'Asrar et Faradi, qui metteur en scène qui est davantage connu en France pour son remarquable film Une séparation, que vous avez peut-être vu, et également pour un film plus récent, Le passé. Mais à propos d'Eli, certes, Faradi nous rapproche de notre terrain, mais il traite des villas qui se trouvent au bord de la mer Caspienne où se réunissent le temps d'un week-end des groupes d'amis téhéranais. Alors la mer, les villas, voilà en effet ce qui est spatialement proche, mais éloigné socialement et culturellement, des hameaux paysans dont il est question dans ce livre. À vrai dire, le film qui évoquerait au plus près le paysage et les usages du Gilan, c'est l'extraordinaire film Bashu, Le petit étranger, de Bahram et Beyzaï, qui campe l'arrivée dans un hameau de la province du Gilan d'un enfant originaire du sud de l'Iran, alors bombardé pendant la guerre Irak-Iran. Et là, on nous présente les rizières, les maisons aux toits de chaume, les relations de voisinage, la place singulière des femmes dans cette société, autant d'aspects inattendus s'agissant de l'Iran qui sidèrent ce jeune garçon venu du sud du pays et que ce remarquable film nous donne à voir. Si vous n'avez pas vu Bashu, essayez de vous procurer un DVD. C'est véritablement un film tout à fait extraordinaire, avec en prime cette extraordinaire actrice, Suzanne Etaslimi, qui aujourd'hui est en Suède, mais qui donne à ce film véritablement une grande partie de sa qualité. Alors, si j'ai appelé ce livre Un autre Iran, c'est aussi en raison des thèmes abordés. Quand on évoque l'Iran d'aujourd'hui, deux images opposées se télescopent et contribue à nous donner une vision caricaturale du pays. La première, c'est celle de clercs enturbanés, proférant des menaces, dissimulant des programmes nucléaires, militaires, emprisonnant des opposants, contestant la Shoah et aspirant à prendre la tête sur le plan international d'un front du refus. On reconnaît là, si vous voulez, les velléités de l'ancien président Ahmadinejad. La seconde image que nous avons, c'est celle d'artistes et d'intellectuels de renom réalisant leurs œuvres créatrices contre vents et marées, je citais Kiarostami, déjouant la censure et remportant des distinctions internationales, telle donc cette palme d'or de Carlos Tamy. S'adjoint à cette dernière image, celle de jeunes femmes rebelles, laissant échapper de leur foulard ou de leur cagoule des mèches blondes, qui sont comme des pieds de nez à l'ordre imposé, ou plus simplement, des militantes réclamant une égalité de droit. Si ces deux images, celle d'une monarchie totalitaire et répressive, et celle d'une palme d'or à Cannes, et des revendications féminines reflètent en partie les contradictions de l'Iran d'aujourd'hui, elles ne rendent pas justice à une situation beaucoup plus nuancée et contrastée. Les Iraniens, qui ne résident pas tous à Téhéran, travaillent dans les usines et dans les champs, ont du mal à se loger, coopèrent et se brouillent en famille, cuisinent et mangent, craignent le mauvais œil, tout comme ils participent aux rituels musulmans chiites, sont fiers des héros qui ont marqué leur histoire, une histoire qui ne se réduit pas au combat entre la laïcité et les dogmes religieux. Et ce sont ces divers aspects de la vie dans une province originale que j'ai essayé de présenter dans ce livre. Alors si j'ai choisi aussi pour titre « Un autre Iran », c'est que ce livre est encore autre parce qu'il réunit deux genres qui sont habituellement dissociés. Les souvenirs personnels et l'exposé savant. Les anecdotes et les notes de bas de page. On a coutume de ne pas mêler ces deux registres, réservant son histoire personnelle parmi les au grand public, si tant est qu'il existe, et ses données et réflexions savantes au cercle étroit des spécialistes. Évoquant les œuvres de grands noms de l'ethnologie française, Léris, Lévi-Strauss, Griol, Soustelle, Vincent Debanne, dans un récent ouvrage, L'adieu au voyage, constate cette dissociation quasi systématique des genres. Ce serait, selon lui, une tradition française aboutissant au double livre de l'anthropologue. Et donc un livre fait de souvenirs personnels et un livre fait de résultats savants. Personnellement, j'ai préféré mêler les genres et m'écarter de la tradition léguée par mes illustres devanciers. Ce n'est pas par souci d'originalité et par souci d'aller à contre-courant, mais pour moi, l'ethnologie d'un bout à l'autre inclut du séjour sur le terrain à l'élaboration d'un ouvrage, les anecdotes et les plongées savantes, le making-of et les résultats scientifiques. Et je voudrais donner quelques exemples de cet entre-là. La gêne que j'ai pu éprouver à être flanqué de deux hôtes qui veillaient sur mon sommeil m'a amené à m'interroger sur les règles contraignantes pour les uns et pour les autres de l'hospitalité. Les blagues que l'on me racontait sur les habitants du Guilan m'ont amené à m'interroger sur les raisons de ces moqueries et à découvrir, sous la futilité des histoires, la théorie des humeurs qui a la vie dure, j'y reviendrai. Les Guilanis sont traités de Kalle Mairor, s'il y a des Iraniens parmi vous, ça doit leur dire quelque chose, donc des mangeurs de têtes de poisson, et ils sont considérés comme des mangeurs d'aliments froids qui, selon la théorie des humeurs, engendrent un tempérament flegmatique et introverti, faiblesse et indolence sexuelle. Autre exemple d'injonction sensible venue du terrain qui m'a beaucoup frappé, celle d'une vieille femme courbée sur sa canne, vitupérant contre des cantonniers ayant abattu un orme de Sibérie, exemple qui conduit à repenser la coexistence entre croyances populaires et schisme orthodoxe. C'est que la sève de cet arbre, l'orme de Sibérie, est identifiée selon les croyances populaires au sang des imams du chiisme et y portait atteinte et donc sacrilège. Encore un exemple. La visite d'un gendarme à la recherche de contrevenants fait apparaître les relations de solidarité au sein d'un hameau. Le responsable interrogé fait des réponses évasives et refuse au bout du compte de fournir les adresses de ses administrés. Ces injonctions sensibles venues du terrain, ces imprévus sont sans doute les meilleurs guides de l'enquête ethnographique. Ils orientent la recherche dans de nouvelles directions, plus pertinentes que celles esquissées à partir d'hypothèses prédéterminées. La proportion du personnel et du factuel, du vécu et du conçu, des souvenirs et des données, varie évidemment selon les sujets abordés. l'analyse de l'histoire de la région, les plongées savantes pour mettre au jour l'originalité d'un système technique ou les fondements d'un mouvement révolutionnaire au début du XXe siècle, laissent peu de place à l'expérience personnelle. Les manières d'habiter, les croyances et les rituels ont suscité à l'inverse des étonnements directs et personnels qui ont guidé l'enquête. Un autre Iran est une fois de plus autre par la diversité des échelles d'analyse mises en œuvre. Tantôt, je traite de la trajectoire d'individus, de leurs aventures sur le chemin de la promotion ou du déclassement, tantôt du fonctionnement de collectivités rurales au sein desquelles s'insèrent ces individus, tantôt encore de la province dans son ensemble, avec ses traits communs et ses différenciations. J'ai souhaité ainsi éviter de tomber dans la généralité des îles, les Gilanis sont, mais il y a beaucoup de Gilanis très différents, que dénonce à juste titre James Clifford, ou dans la particularité de l'analyse biographique, en illustrant par ces changements d'échelle la diversité des insertions et des déterminations des individus. Ce livre est le fruit de plusieurs longues enquêtes menées dans cette province du Gilan depuis les années, je vous à peine le dire, les années 1970. Au fil d'une vie d'ethnologue et de l'évolution de sa discipline, les manières d'enquêter et les buts poursuivis changent. Dans les premiers temps, lors de mes séjours sur le terrain dans les années 70, j'avais une vision plus objectiviste de la discipline. Je souhaitais appréhender les similitudes et les différenciations dans les modes de vie dans l'ensemble de la province. Retournant en Iran en 1982, en pleine période de répression et de guerre, les voyages à travers la province n'étaient plus possibles. Les déplacements étaient étroitement surveillés et l'exercice de l'ethnologie, déjà suspect du temps du Shah, d'Iran donc, n'était vraiment plus d'actualité et apparaissait encore plus louche. D'où la nécessité de se replier sur un petit terrain, à l'abri des contrôles et des menaces d'expulsion rapide. C'est ce que je fis. Mais une autre préoccupation entraînait ce repli. Je souhaitais désormais connaître le fonctionnement d'une famille dans un hameau. Ce changement d'échelle s'accompagnait d'un changement de point de vue. Il ne s'agissait plus d'adopter seulement le point de vue souverain de l'observateur extérieur, mais d'être davantage à l'écoute des informateurs, de leur discours sur eux-mêmes et sur les autres. Il est tout aussi intéressant de savoir qui sont ces îles que nous allons étudier que ce que ces îles pensent qu'ils sont. Les observations réunies dans ce livre proviennent pour la plupart du travail mené dans cette seconde phase de la recherche, dans une famille et sur un petit terrain. Venons-en à la présentation de quelques caractéristiques de cette province, ou du moins de la plaine de cette province, coincée entre la chaîne de l'Elbourz et la mer Caspienne. C'est une province qui jouit d'un climat subtropical humide et qui offre au regard sur ses piémonts de denses forêts. Là, on n'est pas dans les forêts, on est dans les rizières. Attendez, on voit qu'on est un aperçu quand même des denses forêts. Elles sont... Oui, excusez-moi. Elles sont ici. Là, Christian Jacquelin reconnaît peut-être de dos François Calam, qui m'avait accompagné une fois pour la création d'un musée ethnographique donc, dans cette région. Donc, c'est une région subtropicale humide avec un paysage marquetée de rizières. Là, vous avez une scène de sarclage des rizières. Et d'autre part, également, une région qui a été rendue célèbre par son élevage des vers à soie. Donc là, vous avez un magnanier en train de nourrir des vers à soie dans sa magnanerie, qui a été aussi rendue célèbre par ses champs de thé. Bref, un paysage vert qui contraste avec l'ocre du proche plateau iranien. C'est donc une région qui est le grenier aride de l'Iran et où se sont développées à travers l'histoire des activités de production tournées vers le commerce. La soie, qui attirait dans la seconde moitié du XIXe siècle ou au début du XXe les représentants des maisons de Milan, de Lyon, de Smyrne, le tabac, dont la culture a été introduite à la fin du 19e, le thé, culture introduite au début du 20e siècle, et dans les dernières années, le kiwi, qui est venu compléter la gamme des agrumes cultivés. La paysannerie locale a donc été très précocement immergée dans une économie de marché, proche du monde des villes, attentive à la fluctuation des demandes et des prix, au mouvement des hommes, des choses et des idées. Cette particularité du cadre naturel avec ses forêts impénétrables, cette osmose entre le monde rural et le monde urbain, explique partiellement au moins l'éclosion et le déroulement d'un mouvement révolutionnaire, le mouvement Djangali, ce qui veut dire forestier, qui aboutit à la formation d'une éphémère république socialiste soviétique d'Iran en 1920-1921, dont Rasht, la capitale du Gilan, était donc la capitale. Le Gilan appartient à ces mondes forestiers et montagneux où l'étranger se perd dès qu'il quitte une des rares routes qui les traversent. Et cette connivence avec les autres régions guerriesques dans le monde a été à ce point ressentie par les intellectuels locaux que le seul roman étranger traduit à ce jour en Gilaki est celui de Peter Fried, dit Monfay, qui traite de la guerre du Vietnam. Le traducteur nous dit dans sa préface que c'est la ressemblance entre le paysage du Vietnam et celui du Gilan qui l'a amené à entreprendre ce travail éditorial inattendu. Le leader de ce mouvement révolutionnaire méconnu était un intellectuel local qui... Attendez, pardon. Faut que... Bon, donc un intellectuel local avec une barbe pré-Che-Guevaresque, vous voyez, et qui s'identifiait fortement d'ailleurs au monde forestier, à tel point qu'aujourd'hui des peintres le représentent dans un arbre, et ce leader local, Mirza Kuchekran, s'identifie à ce monde forestier qui connote la liberté, si bien donc que des peintres contemporains le représentent dans un arbre, comme vous le voyez là. À l'affrontement direct de l'ennemi, les Djangali préféraient le harcèlement des troupes adverses et un repli rapide dans des espaces forestiers que seuls connaissaient. C'est souvent perché dans des arbres, habitués à grimper, qu'ils tendaient leurs embuscades. Ce sont des techniques de combat déroutantes et les difficultés à juguler des troupes cachées dans la forêt qui amenèrent les Britanniques. Les Britanniques, à ce moment-là, avaient relayé en partie les Russes et voulaient assurer la voie, je ne vais pas revenir sur une histoire complexe, entre Razvin, qui se trouve au sud du Gilan, et la mer Caspienne pour gagner Bakou. Les Britanniques avaient fait venir des Gourkhas du Népal, habitués à la forêt, pour vaincre les Djangali, et donc pour essayer de s'assurer la sécurité de cette route. Mais bien sûr, ces conditions naturelles, cette circulation entre les villes et les campagnes, ne furent que des facteurs favorables à l'éclosion et au déroulement de ce mouvement. La proximité d'un Caucase en ébullition, ce mouvement a eu lieu de 1915 à 1921, et la République en question a duré de 1920 à 1921, de juillet 1920 à septembre 1921. Donc on avait un Caucase en ébullition, une Union soviétique en formation, la faiblesse aussi d'un État central et aussi l'existence d'une paysannerie moyenne immergée dans une économie de marché. Et nous avons là donc des facteurs décisifs, puisque les paysans du Gilan répondirent favorablement aux appels des leaders Djangali parce qu'ils étaient victimes des fluctuations d'une économie de marché, celui de la soie en particulier, qui les mettait, ces fluctuations, en contact avec le monde des villes, ses commerçants, ses élites, ses révolutionnaires, y compris révolutionnaires étrangers qui étaient dans la région. Et si je vous montre la composition du Attendez. Ça, voilà. Attendez, excusez-moi. Oh, pas pourquoi ça. Oui, vous voyez là notre. C'est une photo qui a été colorisée par le même peintre que celui dont je vous montrais là. Le tableau où Mirza Kouchikran est dans un arbre. Vous voyez là, bon, à la fois des gardes géorgiens, vous voyez un Allemand du Caucase avec ses lunettes qui est le compagnon de Mirza Kouchikran. Vous voyez à la dernière rangée des cabardes et des gens du nord du Caucase. Bref, un mouvement cosmopolite, ce qui est tout à fait étonnant pour l'Iran en tout cas, avec même un personnage qui me fascine et qui sera sans doute l'objet d'un prochain livre, qui est cette Lettonne qui a participé, qui a dirigé ce mouvement révolutionnaire et l'établissement de cette république socialiste soviétique, donc Milda Otovna Boulé, qui a été ensuite d'ailleurs la première cambrique rouge, la première générale rouge, qui se retrouvait là en train d'essayer d'inculquer les principes du bolchevisme aux paysans du Guilan, ce qui ne manquait pas de sel. Et alors, évidemment, aujourd'hui, ce mouvement aboutit, si vous voulez, à des représentations extrêmement diverses. Chacun revendique la paternité de ce mouvement, les religieux, en disant que le leader avait fait des études de théologie, vous le voyez ici à droite sur ce poster. En même temps, il faut bien se rappeler aussi que c'était le guerriero qu'on voit à gauche avec son fusil, et on aboutit à une représentation du héros avec une toque et puis avec une barbe plus disciplinée que vous voyez ici en haut du poster. Alors, pourquoi y a-t-il eu cette révolution dans cette région ? On parlait évidemment du cadre naturel, de l'économie de marché, de paysans moyens reliés au monde des villes. Il faut aussi bien voir qu'on est dans une région d'abondance où, à vrai dire, les structures sociales ne se justifiaient pas, puisque les propriétaires fonciers, les propriétaires féodaux n'avaient aucune importance fonctionnelle. Sur le plateau iranien, les propriétaires fonciers contribuaient à créer des canaux souterrains pour l'irrigation. Donc ils avaient ce rôle fonctionnel où ils défendaient encore avec leurs petites troupes les paysans contre les agressions des nomades qui ne manquaient pas de se produire. Au Guilan, ils n'avaient absolument aucune importance fonctionnelle et donc on a là affaire à une situation de faiblesse fonctionnelle des propriétaires fonciers qui explique aussi cette révolte contre l'ordre et puis aussi contre la présence étrangère, puisque c'était les deux motifs de cette révolution du Guilan, à la fois la structure sociale et la présence étrangère en Iran. Mais si vous voulez, autre aspect sur lequel je voudrais dire quelques mots, c'est le fait que cette région tranche aussi beaucoup avec ce que nous avons dans la tête en matière de représentation des relations entre les hommes et les femmes. Et je vous disais tout à l'heure que des blagues, c'est Joker Rashti, pour ceux qui connaissent un peu le persan, ces blagues Rashti, Rasht, c'est la capitale régionale, fustigent la frivolité des femmes et la couardise corrélative des hommes. Et c'est un genre tout à fait prisé par les Téhéranais et par les gens du plateau, au point d'ailleurs que si vous regardez sur Internet, vous avez un Jokestan, donc un site de blagues où les blagues Rashti visant les gens du Guilan occupent la première place. Alors, que veulent dire ces blagues ? Qu'est-ce que ça signifie ? Si vous voulez, il y a deux caractéristiques des modes de vie dans l'Iran caspien qui sont à l'arrière-plan de ces stéréotypes. C'est la division sexuelle des activités et des espaces, et c'est un rapport à la violence beaucoup moins marquée dans cette région que dans les sociétés du plateau iranien. Ce qui frappe en pays caspien, en effet, quand on considère l'espace habité, c'est la prédominance de l'ouvert sur le clos, contrairement à la norme en Iran intérieur. Et c'est ce schème de l'ouvert qui façonne les manières d'être et les comportements. Quant au schéma qui régit les rapports entre les genres, il se module de façon beaucoup plus souple dans les établissements du Guilan. Vous voyez ici une noce dans un village du Guilan, alors que dans les villes d'Iran intérieur, et aussi d'ailleurs dans les villes du Guilan surveillées, il y a un salon pour les femmes et un salon pour les hommes. Là, on a évidemment une proximité plus grande. Il n'y a pas, contrairement à ce que l'on connaît dans d'autres régions d'Iran, de pièces à l'intérieur de la maison spécifiquement féminines. Et ces maisons traditionnelles, d'ailleurs, s'offrent au regard. Voyez, donc, il n'y a pas, si vous voulez, de mur qui enclos la maison. Au contraire, on peut voir ce qui se passe sur la véranda, sur l'Aïvan. Quand on passe sur un chemin, vous voyez, ce sont des... Mais enfin, il vaudrait mieux d'ailleurs que je dise que ces maisons s'offraient au regard, car depuis la révolution islamique, les choses ont sensiblement changé et les maisons sont désormais protégées également par un mur d'enceinte, empêchant la divagation des regards vers l'intérieur de la maison. Mais prédominance du schéma de l'ouvert, les femmes portent rarement le tchador, sauf pour se rendre en ville ou à un rituel religieux. Et sur le plan économique, leur contribution aux ressources des ménages est importante. Elles accomplissent dans les rizières, on le voyait tout à l'heure, de durs travaux dont la rétribution peut dépasser celle d'un ouvrier agricole masculin. En ville, il leur arrive de tenir un commerce. Et dès le début du XXe siècle, certaines étaient employées dans des usines, dans les établissements industriels de traitement des cocons, de verre à soie. Et il y avait alors une centaine de ces établissements dans la plaine du Guilan. Les stéréotypes répercutent à leur façon ces différences qui touchent au statut des femmes. Des gens du plateau, d'ailleurs appartenant aux couches intellectuelles des villes, ne sont pas dupes des clichés qui courent sur la population du Guilan. Pour eux, la réputation d'indolence masculine et de frivolité féminine ne s'explique pas par la nature du climat ou du régime alimentaire, mais sanctionne une manière particulière, dans le monde iranien, de vivre les relations entre les hommes et les femmes. Un second stéréotype mérite d'être décortiqué. À travers les blagues et les commentaires, les gens du Guilan sont jugés par leurs voisins bi-rayarat, sans sens de l'honneur, flegmatiques, peu agressif. Ces caractérisations psychologiques à l'emporte-pièce sont peut-être la rançon d'un rapport à la violence bien différent de celui que l'on connaît sur le plateau iranien. Les règlements de compte entre individus, familles, groupes de familles connaissent des formes plus atténuées au Guilan que dans d'autres régions du pays. Ils ne règnent dans les établissements de la plaine du Guilan, ni cette atmosphère de tension, de violence latente, ni cette psychose du vol que l'on sent dans les communautés du plateau ou dans les sociétés pastorales d'Iran intérieur. Sans doute aujourd'hui, cette impression de tranquillité est troublée par la peur du basidji, du volontaire, qui vient un peu vérifier ce qui se passe dans les maisons et dans les villages, et aussi par la peur des drogués, à l'affût d'argent même dans les villages. Mais l'atmosphère habituelle est détendue. J'ai essayé de comprendre pourquoi cette société n'était pas une société d'hostilité ou une société vendettiste, comme c'est le cas dans la plupart des établissements d'Iran intérieur. Les sociétés d'hostilité sont souvent des sociétés de la rareté, qu'il s'agisse de biens matériels, les ressources naturelles, l'eau, la terre, ou de biens symboliques, l'honneur. Par ailleurs, dans ces sociétés, de fortes traditions collectives dans la gestion des ressources fournissent un terrain favorable aux tensions et aux conflits. Or, au Guilan, ces deux conditions ne sont pas réunies. La région dispose d'abondantes ressources, en eau notamment, puisqu'il y a beaucoup de rivières qui coulent de l'Elbourz, et le tissu des usages coopératifs est lâche, limité à quelques tâches rendues nécessaires par l'irrigation et la défense des rizières contre les ravages des sangliers. Ce qui frappe dans la plaine du Guilan, c'est la faiblesse des structures communautaires, dont l'emprise est à l'inverse très forte dans les villages du plateau iranien. Ici, très peu de terres communes, pas de redistribution des parcelles entre groupes d'exploitants, ce qui était une caractéristique de l'Iran intérieur avec le système des bonnets, où les exploitants changeaient de parcelles au rythme des années pour assurer une certaine égalité entre les paysans. Pas d'assolement obligatoire, réservant une partie du territoire à la paissance du bétail, et pas de gestion collective du bétail, des bœufs essentiellement. Donc, en même temps, l'organisation sociale de ces établissements ruraux de la plaine du Guilan ne correspond pas à celle qui domine dans les sociétés vendettistes. Dans ces sociétés, des groupes de parents équivalents s'opposent les uns aux autres et pratiquent une sourcilleuse endogamie, évitant les mariages avec le groupe antagoniste. Toute appropriation de privilèges par l'un ou l'autre groupe est perçue comme une remise en cause de l'équilibre du système et constitue une source de conflit. Je vous renvoie par exemple aux analyses d'Ismaïl Kadaré dans Avril brisé, qui montre très bien ce système vendettiste. La société du Guilan n'est pas charpentée de cette façon. Il existe sans doute des oppositions, mais entre hameaux voisins, et pas de façon systématique entre groupes de parents, comme c'est le cas par exemple dans les sociétés tribales analysées par beaucoup d'ethnologues pour l'Iran. L'exogamie est ici dominante. Elle vise à renforcer et à diversifier le réseau de relations qu'entretient chaque famille avec les localités, les petits centres urbains et les métropoles proches ou lointaines, avec cette volonté d'avoir toujours un pied dans la ville. À ces raisons négatives, on peut ajouter des raisons positives qui peuvent rendre compte des comportements singuliers des gens du Guilan dans le monde iranien. Riziculteurs, sériciculteurs, éleveurs de vers à soie, éleveurs de bovins qui stabulent au-dessous ou à proximité de l'espace habité, les paysans du Guilan entretiennent avec le monde végétal et animal, sur lequel ils fondent leur subsistance, des relations empreintes de délicatesse, de minutie, d'attention, qualité que requièrent ces activités. Je me suis inspiré ici de ce que dit le grand anthropologue André-Georges Audricourt dans ses suggestives hypothèses, où il nous montre que les façons de traiter les plantes et les animaux rejaillissent de proche en proche sur les manières de traiter autrui dans le quotidien. Autrement dit, il existerait une homologie entre style de pratique culturelle et style de comportement culturel. Et il se pourrait bien en effet qu'une des causes des différences de comportement que l'on peut constater entre les paysans du Guilan et les agriculteurs et éleveurs du plateau iranien réside dans la spécificité de leur pratique agropastorale. La culture du riz s'apparente à l'horticulture, le nourrissage minutieux des vers à soie, l'élevage de quelques bêtes qui font partie de la maison, contraste avec la culture beaucoup plus impersonnelle et distante de l'orge et du blé sur le plateau iranien, et encore davantage avec la conduite fondée sur des relations de domination et d'ordre, la conduite de grands troupeaux d'ovins encadrés par des chiens. Il y a très peu de chiens dans la plaine du Guilan. Dieu soit loué pour l'ethnologue. Les rapports interpersonnels seraient ainsi modelés en pays caspien, donc dans la région du Guilan, par un traitement horticole de l'homme là où dominerait sur le plateau iranien un traitement pastoral des individus. Voilà des considérations sur les manières de voir et de faire dans le temps long. Je voudrais terminer cette rapide présentation par quelques réflexions sur les comportements au Gilan et en Iran aujourd'hui, où dans le contexte de la globalisation, les individus sont tiraillés entre des modèles contrastés dans la vie quotidienne comme dans leurs pratiques réflexives. Dans la cuisine, ça c'est une carte qui montre la consommation du riz et du blé dans la province, du moins telle que c'était dans les années 1980. C'est-à-dire, vous voyez, une consommation du riz aux trois repas, au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, c'est ce qui est jaune. Et une consommation du pain qui est en marron, et vous la voyez évidemment beaucoup plus développée dès qu'on arrive sur le plateau iranien, avec là des mangeurs de riz. Et mais néanmoins, aujourd'hui, le pain gagne du terrain, et par ailleurs, des amateurs d'acide, notamment de fruits, là ce sont des prunelles de Damas à peine mûres, vertes, qui donnent des dysenteries tout à fait remarquables au printemps, qui ont un effet purgatif majeur. Mais en même temps, on est dans une région où, contrairement à ce qui se passe sur le plateau iranien, on adore l'acide. Vous voyez ici, par exemple, des préparations de fesenjoun, c'est-à-dire de pâtes de grenade, mais qui sont faites avec des grenades sauvages et non pas avec des grenades cultivées qui sont réputées beaucoup plus chirines, beaucoup plus, et que l'on sucre d'ailleurs quand on fait ce plat délicieux qui est le fesenjoun. Et donc, on a là affaire à, pour le Gilan, à une cuisine acide et verte. Vous voyez là la place notamment des herbes dans cette cuisine. Balancement donc entre cette cuisine traditionnelle et la pizza. Balancement dans les références idéalisées entre les imams martyrisés. Là, vous voyez les acteurs d'un tasier ambulant. C'est un théâtre religieux où sont représentés, là donc, en rouge, évidemment, le méchant qui va tuer l'imam Hossein, le troisième imam des chiites particulièrement vénérés en Iran. Donc, c'est lui avec ses chèmes, avec son sabre, et avec sa tenue rouge, alors que là, vous avez en bleu et en vert, au contraire, les gens de la famille, l'imam Hossein d'une part, et puis, d'autre part, un de ses fils. Donc, il y a toujours cet attachement très fort au chiisme et aux imams martyrisés dans le chiisme. Et par ailleurs, en même temps, il y a également les imams martyrisés, mais il y a aussi les footballeurs adulés. Il y a la nation aryenne, le chiisme d'une part et l'Occident de l'autre. Et que de fois en Iran, et j'étais frappé par ces changements subits d'attitude, quant à l'évocation de la tragédie du troisième imam, celui qui est tué par cet horrible personnage en rouge, à l'évocation de l'enfer ou du paradis, des propos graves et méditatif se substituait à des paroles ou à des attitudes voltairiennes. On est donc dans une situation de double jeu. Et ces deux jeux ont chacun leur espace. Sous le régime du Shah, les apparences occidentales étaient exhibées à l'extérieur. C'est là que l'on portait fièrement les vêtements à la mode, que l'on buvait des boissons alcoolisées, que l'on dansait sur le rythme des musiques occidentales. Le foyer était au contraire le lieu de repli où s'échangeaient entre amis qui se regardaient droit dans les yeux, des pensées graves et profondes sur les choses importantes de la vie. Il y avait donc une correspondance entre l'extériorité spatiale, ce qu'on appelle le Zahir, et l'extériorité psychologique et culturelle, et entre l'intériorité, le Batin, spatiale, culturelle et psychologique. La situation, depuis la révolution islamique, s'est inversée et complexifiée. À l'extérieur, une gravité plus ou moins feinte. À l'intérieur, la facétie, le relâchement, les cassettes de musique et de films occidentaux. Et cette discordance spatiale peut être source d'angoisse. Quelques exemples de cette discordance. Attendez, je me trouve. Oui, là, je vous montre. Non, excusez-moi, ça c'est un jeu qui n'a rien à voir ici. Non, ça c'est une cérémonie de jeunes enfants, donc lors des rituels doloristes de Ashura pour commémorer. Mais enfin, là, ils rigolent, hein, donc. Mais vous voyez ces bannières également commémoratives. Et bon, ce que je voulais vous montrer, c'est le contraste, la même journée, entre ceci, de jeunes garçons qui imitent des rockers occidentaux avec leurs raquettes, et quelques minutes après, cette participation tout aussi sincère à une cérémonie de deuil, dans la mesure où quelqu'un avait été accidenté avec ses enfants à proximité du village. Et alors cette dualité, on peut peut-être la voir sur cette photo. Photo d'un intérieur d'un paysan urbanisé au Guilan, où vous avez ici le lutrin avec le Coran et ici le vélo d'intérieur pour avoir une taille fine. Donc, si vous voulez, on a là, en effet, ce double jeu. Et ce double jeu, je l'ai ressenti de façon très très forte, ce tiraillement dramatique, difficile à assumer, lorsque j'ai invité mes informateurs du Guilan à Aix-en-Provence et en France pour passer une quinzaine de jours. C'est bien normal que ce que nous ont donné les autres, nous leur restituons un peu. Nous allons les déranger chez eux. Il est tout à fait normal qu'ils viennent un peu chez nous. Et l'événement le plus significatif eut lieu pendant le séjour à Paris de ses amis. C'était pendant la nuit qui précédait le Ramadan. Mahmoud, appelons-le comme ça, ce n'est pas son vrai nom, eut un rêve. Et l'on sait que pour les Iraniens, les rêves ne sont jamais anodins. Il y a toute une science de la prémonition. Mais voici comment il me raconta ce rêve. « J'étais, me dit-il, au milieu d'une foule, et les Basidji, donc les Basidji, ce sont les volontaires du régime, nous frappaient à coups de ceinturon. En louvoyant, je suis parvenu à m'extirper de cette foule. Et là, j'ai vu Aboulfazl. Aboulfazl, c'est Abbas, le demi-frère de l'imam Hossein. Je me suis réveillé en sursaut et je me suis mis à pleurer pendant une demi-heure. J'ai alors pris la résolution de ne plus me comporter en occidental et de faire régulièrement mes prières. J'avais connu Mahmoud arrivant à Aix-en-Provence, décidé à vivre à Rome comme les Romains. Et voici qu'il était rattrapé par son histoire et par ses traditions. Jamais je n'avais ressenti avec une telle force les paradoxes de l'iranité aujourd'hui. Un même individu peut au quotidien boire clandestinement de l'alcool, afficher des penchants libertins, fustiger la loi religieuse et, pendant les périodes rituelles, renouer sincèrement avec la foi et avec les valeurs traditionnelles. Selon les moments de la vie, de l'année, voire de la journée, se profile ainsi, et c'en était un nouvel exemple, un double jeu au comportement contrasté. Voilà, je vous remercie. J'ai été assez long.